Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Aujourd'hui, c'est non pas une, mais deux invités que je reçois. J'ai discuté avec les autrices de BD Katen Muller et Claire Bouillac qui se sont à nouveau associées pour sortir Indiana, une bande dessinée conçue à partir du roman éponyme de George Sand. Katen et Claire ont co-scénarisé l'histoire. Claire Bouillac s'est chargée de l'adaptation du roman, tandis que Katen Muller s'est occupée du prologue et de l'épilogue qui permettent de remettre l'histoire dans un contexte. Si vous ne connaissez pas Indiana, cette passion assez violente qui a connu un grand succès dès sa parution en 1832, je ne peux que vous conseiller de foncer vous procurer cette bande dessinée et d'écouter cet entretien bien évidemment. Car avec Claire Bouillac et Katen Muller, on a parlé ensemble de la place qu'occupe Indiana dans la vie de George Sand, de ce que ce roman nous raconte au-delà de son résumé, mais aussi de leur pratique à elles, du dessin, ou encore de la place qu'elles ont réussi à se faire en arrivant dans un tel milieu. Bonne écoute. Katen Muller et Claire Bouillac, bonjour.
Bonjour.
Et oui, nous n'avons qu'un micro, ça c'est dit, ça n'est plus à dire. Je vais commencer par une citation. J'ai écrit Indiana avec le sentiment non raisonné, mais profond et légitime, de l'injustice et de la barbarie des lois qui régissent encore l'existence de la femme dans le mariage, dans la famille et dans la société. Ça, c'est George Sand qui le dit. Pour parler d'Indiana, est-ce que vous sauriez, pour planter le décor, résumer en quelques phrases, pas forcément ce dont ce livre parle, mais ce que ça raconte, pour que les gens soient un peu au courant de ce dont on va parler?
C'est l'histoire d'une jeune créole qui a été mariée à un homme beaucoup plus âgé, qui ne connaît rien à l'amour et qui a soif de passion, revient en France et, se fait un peu abuser par un séducteur. Mmh. Pendant une grande partie du livre, se trompe sur l'amour jusqu'à ce qu'elle finisse par découvrir. Peut-être.
Oui, on ne dévoilera pas toute l'histoire parce que c'est le livre qui nous racontera cela. On ne peut pas vraiment tout résumer. Ouais. Mais c'est vrai que ce qu'on évoque là, c'est le premier texte féministe, même si le féminisme au 19e siècle, au moment où Aurore Dupin, dite George Sand, l'écrit, on ne parle pas de féminisme. Mais quand même, on le vit, en tout cas des écrivaines comme elle le dénoncent parce que tout simplement elle le subit, elle voit la condition féminine à ce moment-là, les femmes mariées qui sont sous le joug de leur mari ou de leur père, qui n'ont finalement pas le choix de leur vie, qui subissent plus qu'elles ne choisissent, et c'est ce qu'elle veut dénoncer en écrivant Indiana.
Il y a une idée de dénonciation dans l'absolu.
En vérité, elle repart beaucoup d'événements de sa propre vie, de son expérience à elle, et de ce dont elle a souffert. Donc forcément, il y a une forme de dénonciation.
Et justement, donc, tu viens de le dire, il y a un prologue et il y a une espèce d'épilogue, mm-hmm. Comment on pourrait l'appeler, un épilogue, où il est question de la vie de George Sand, en tout cas d'une espèce d'immersion dans sa vie, disons. Quel parallèle vous avez noté entre précisément cette vie, peut-être sa personnalité à George Sand, et Indiana, parce qu'il en est un peu question, notamment dans le prologue.
Oui, alors c'est tout le travail que Claire Bouillac et moi-même faisons ensemble, c'est de parler non seulement de textes qui ont marqué la littérature française, d'écrivaines, ouais. Il n'y en a pas tant que ça, parce que les femmes n'avaient vraiment pas le droit au chapitre dans ce domaine, très longtemps. Et donc, on essaye d'adapter en bande dessinée ces textes fondamentaux. On a commencé par La Princesse de Clèves, on s'attaque à Indiana. Mmh. Après Madame de Lafayette, c'est George Sand. Et on se rend compte, finalement, en lisant ces textes de femmes, qu'elles racontent de façon déguisée leur propre histoire. Que pouvaient-elles raconter d'autre, de toute façon, puisque, ouais. Justement, elles n'avaient pas la possibilité de rentrer dans le monde. Elles étaient quand même beaucoup cloisonnées à la maison, cloisonnées avec les enfants, cloisonnées dans le mariage. Et d'écrire, c'était peut-être une libération pour elles, mais en même temps, écrire finalement sur leur vie, sur leur histoire, sur leur analyse de l'histoire, de leur point de vue. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a le point de vue féminin sur cette époque-là.
Comme une sorte de document un peu ?
C'est finalement, il y a un côté documentaire, même si c'est tout à fait déguisé. Par exemple, Madame de Lafayette, elle situe son histoire 100 ans avant sa propre histoire, et George Sand parle d'une créole alors qu'elle, elle ne l'est pas du tout. Mmh. Mais en réalité, George Sand a été mariée avec un mari oppressant, autoritaire, brutal, jaloux, et bizarrement, on va retrouver les mêmes caractéristiques chez le mari d'Indiana. George Sand va rencontrer un jeune, bel écrivain qui s'appelle Jules Sandeau à Paris. Elle va tomber amoureuse de ce gars plein de panache, mais qui va énormément la décevoir aussi. Bon, heureusement, elle va pouvoir garder son nom, elle va pouvoir inventer son nom grâce à lui. Mais évidemment, on ne peut pas faire autrement que de voir le parallèle entre sa propre histoire et celle d'Indiana.
Du reste, elle le fait parfois de façon très très claire, en reprenant des petits événements, comme par exemple la mort d'un chien ou des choses comme ça.
Ça, c'est d'accord.
Où elle va vraiment, ou même des phrases qui sont dites et qui sont vraiment... Qui ont eu lieu dans sa propre vie.
Pour finir, c'est justement notre idée, c'est d'adapter ce texte fondamental, mais en même temps, de l'encadrer par un moment de vie de l'écrivaine juste avant qu'elle écrive ce texte. Donc, qu'est-ce qui l'a poussée à le faire? Et ensuite, après, qu'est-ce qui a fait que ce texte a eu telle ou telle réception dans sa vie? Par exemple, George Sand, ce texte a eu énormément de succès, Indiana, cette histoire, même plus que celui de Victor Hugo qui est sorti au même moment, Notre-Dame de Paris. Et c'est très étonnant que dans l'histoire, ce soit Notre-Dame de Paris qui soit restée pas Indiana.
C'est vrai que c'est très étonnant. D'ailleurs, est-ce que vous comprenez, vous saisissez les rouages qui ont fait que c'était un tel succès? Parce que moi, j'étais absolument pas au courant que précisément, il y avait eu un succès éditorial finalement.
Mais dans la mesure où c'était quelque chose de complètement nouveau, le point de vue
c'était
d'une femme,
nouveauté,
et que les femmes étaient lectrices aussi.
Ouais.
Donc c'était la nouveauté, c'était le scandale, c'était la manière d'écrire. Tout était nouveau et tout était très impertinent, audacieux, profond, sentimental. Enfin, on y trouvait tous les mêmes ingrédients que chez Victor Hugo. Et d'ailleurs, Flaubert reprendra quelques années après son histoire avec Madame Bovary. C'est à peu près la même histoire, enfin les mêmes tenants et aboutissants. Et évidemment, ceux qui sont toujours restés dans l'histoire, ce sont les hommes.
Il faut dire aussi que Indiana a été interdit auprès de certains, dans des pensionnats de jeunes filles, par exemple. On avait le droit de lire La Petite Fadette, on avait le droit de lire La Mare au Diable, qui était positif, en effet, et qui laissait les femmes à sa place. Parce que La Petite Fadette, quand même, l'intérêt à la fin, c'est qu'elle fait bien le ménage chez elle. Donc c'est pour ça qu'on peut l'épouser. Or, Indiana, elle est pleine de passion. Et par exemple... Benoît de Groux cite dans certains de ses livres George Sand et parle d'Indiana en expliquant bien que c'est quelque chose qu'on n'avait pas le droit de lire quand on était une femme. Donc évidemment, ça a participé aussi de son invisibilisation.
Bien sûr. Pourquoi vous avez choisi Indiana après La Princesse de Clèves?
Moi, je pense que c'est le texte fondateur de George Sand.
Ouais.
C'est son premier grand roman, parce qu'avant, elle l'a écrit avec Jules Sandeau, dont parlait son premier amant. C'était Rose et Blanche, un roman qui avait eu beaucoup de succès. Mais qui n'était pas tout à fait d'elle, qui était beaucoup d'elle quand même s'il était signé du nom du co-auteur. Mais à un moment, elle a décidé de faire son propre chemin et elle lui a demandé de garder son nom de famille auquel elle a rajouté Georges. Pourquoi Georges plutôt qu'Aurore, puisqu'elle s'appelait Aurore de son prénom? Parce que c'était masculin et qu'elle aurait plus de chances de le vendre. Et très longtemps, on a pensé, on ne savait pas vraiment qui était l'auteur, George Sand, de ce fameux Indiana. Et c'est ce qui a aussi permis qu'il soit compris, imprimé, reçu par le public, parce qu'on pensait que c'était un homme. Après, évidemment, un homme qui écrit un texte féministe, c'est encore plus surprenant, scandaleux. Et c'est ce scandale qui a expliqué, à mon avis, ce succès. C'est qu'il y avait un besoin aussi de ne pas être lisse, de décaper, de raconter ce qu'était une passion violente chez une femme, mais justement de sortir de ces conventions, de sortir des normes que la société impose aux femmes. Donc à la fois pour George Sand, son texte fondamental, et pour nous, de parler de ce texte, c'est fondamental pour raconter le 19e siècle et l'évolution des femmes et par là même du féminisme.
Oui, bien sûr. La Princesse de Clèves, je crois que vous étiez pas mal documenté, vous étiez allé à Chambord, à Blois, etc. Pour Indiana, comment s'est passé ce travail de recherche? J'imagine que vous avez lu le roman, évidemment. Il y a des adaptations, mais je crois qu'il n'y en a pas énormément tant que ça. Enfin, au cinéma, par exemple, j'en ai pas noté tant que ça. Enfin bref, comment vous avez travaillé pour...
Pour les adaptations, j'en ai vu qu'une au cinéma, en effet. Okay. Je crois que c'était un téléfilm, et d'ailleurs, j'ai jamais réussi à le voir. Ça a vraiment été de la recherche. On est allé à Nohant toutes les deux. Okay. On a visité la maison de George Sand. Après, pour ce qui est des personnages, on réfléchit beaucoup toutes les deux au caractère qu'on veut donner, et on essaye de voir un petit peu à quoi va ressembler notre héroïne, surtout. Mmh. Et puis après, pour les personnages secondaires, dans La Princesse de Clèves, le prince de Nemours, c'était mon fils aîné. Mon fils cadet m'a fait la tête pendant 3 ans, donc un des héros principaux, c'est mon fils cadet.
Qu'on embrasse.
Voilà. Que j'embrasse au passage, coucou chérie. Et voilà, après, pour tout ce qui se passe à Bourbon, je suis comme George Sand, qui n'y a jamais mis les pieds. Ouais. À l'île de la Réunion, je n'y suis jamais allée. Et j'ai des amis qui y sont allés ou qui y vivent, et tu y allais, mais tu m'as pas donné de photo,
j'ai vérifié tes dessins.
et en effet, j'ai quelques amis qui m'ont dit que ça marchait, mais en tout cas, j'ai utilisé des photos particulièrement d'amis qui y sont allés, à qui je disais j'ai besoin d'aller à tel endroit, parce qu'elle cite énormément d'endroits très précis sans y avoir jamais été. Ouais. Et elle le décrit avec une certaine verve, et c'est assez réussi pour quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds. Après, pardon, pour tout ce qui est costume, pour tout ce qui est vêtements, bien sûr, aussi mobilier et tout ça, il y a en effet un gros travail de recherche, bien sûr.
Dans la bande dessinée, page 102 exactement, dans la deuxième partie, il est question d'une phrase que je vais citer. « Elle se sentait au-dessus des femmes qui flattent leur maître et par dignité se soumettaient à son mari. » Est-ce qu'on peut dire qu'il y a parfois, à certains égards, presque une invitation à se rebeller pour les femmes dans ce livre, dans cette histoire?
Avant tout, George Sand parle d'elle-même.
Ouais.
Et comme elle-même, c'est un modèle d'émancipation, évidemment que c'est une invitation à la réflexion dans un premier temps et peut-être à la rébellion dans un second temps.
Oui, Dassan, il est question quand même pas mal, je trouve, pour recouper ce qu'on vient de dire, d'une espèce de résistance passive qui pourrait presque être une forme de pouvoir. C'est un peu stoïciste parfois à certains égards. Je trouvais par exemple comme quand le mari d'Indiana arrive dans sa chambre à un moment, elle lui montre bien qu'il n'a pas tout contrôle sur elle, qu'il peut l'enfermer, qu'il peut lui imposer le silence, mais pas du tout l'arrêter de penser, par exemple. Évidemment, ça le mine. Bon, ça, évidemment. Oui, bref, ça recoupe ce qu'on vient de se dire. Voilà.
Mais c'est exactement ça le problème. C'est comment une femme peut-elle s'affranchir dans un tel carcan. Les femmes étaient prisonnières, d'une certaine façon, et c'est encore aujourd'hui, d'ailleurs, pour n'importe qui, dans n'importe quel pays, quelqu'un d'enfermé, est-ce qu'il peut quand même trouver une toute petite liberté dans sa tête? Et c'est ce que raconte Georges, de garder, de résister dans sa tête déjà, et après peut-être dans ses actes.
Ouais. Et de reprendre un peu aussi le pouvoir, puisqu'à un moment donné, elle lui dit « Hier, je ne voulais pas venir avec vous, parce que vous vouliez me l'imposer, mais aujourd'hui, c'est ma décision de vous suivre, donc aujourd'hui j'ai changé d'avis. » Alors lui, il obtient ce qu'il veut, il est assez satisfait, mais il ne se rend pas compte non plus qu'elle finalement reprend une forme de pouvoir de cette manière, et qu'elle prend le pouvoir dans le carcan qui lui est imposé, mais elle garde quand même cette... et c'est ce qui nous intéresse d'ailleurs dans un personnage comme Indiana, mais aussi dans La Princesse de Clèves, ce sont des femmes qui sont dans des carcans sociétaux, qui ont beaucoup d'obligations, beaucoup d'empêchements, et qui malgré ça vont essayer sur ce sur quoi elles ont pouvoir, à savoir leur vie, de garder, d'échapper dans une certaine mesure à la domination et de garder le pouvoir sur ce qui leur appartient.
Alors vous avez travaillé toutes les deux sur Adieu Kharkov, sur la mère de Mylène de Mongeau, sur La Princesse de Clèves, sur aujourd'hui Indiana. Vous, Catel, il y a eu Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse, Alice Guy avec José-Louis Bocquel. Vous, Claire, il y a aussi eu Rose Vallant.
Avec
Catel. J'en passe. Mais l'intrigue d'Indiana se focalise, on l'aura compris, je pense, sur un personnage féminin. En repeuplant les bibliothèques avec des héroïnes, est-ce que vous vous êtes fixé, je sais pas, une sorte de mission?
Peut-on parler de mission? En tout cas, on s'est rendu compte que... Alors déjà, vous parliez de mes héroïnes.
Ouais.
Moi, petite, j'avais remarqué que dans mes livres d'histoire, il n'y avait pas beaucoup d'héroïnes auxquelles s'identifier pour une fille. Alors, en dehors de Jeanne d'Arc et de Marie-Antoinette, qui n'ont pas des destins très enviables, hein, qui se fait brûler, l'autre couper la tête, autant les garçons avaient des Vercingétorix, des Napoléon, un certain nombre de Louis, rois, et puis jusqu'à Charles de Gaulle, les filles, pas grandement d'exemples. Donc voilà d'où est venue petit à petit l'idée de repeupler déjà nos livres d'histoire pour avoir, et bon, moi j'ai des filles en plus qui elles-mêmes en grandissant n'avaient pas beaucoup plus de modèles, j'avais absolument envie qu'on trouve dans les livres d'histoire quelques personnages féminins qui aient marqué à leur manière d'une empreinte indélébile notre grande histoire. Bon, aujourd'hui on a Joséphine Baker qui est panthéonisée, quand on avait commencé à en parler on nous disait mais c'est une danseuse de cabaret, quel rapport avec la grande histoire. Voilà, aujourd'hui elle reprend sa place, et de la même façon avec Claire nous avons l'envie de remettre au centre des livres et de l'histoire littéraire des femmes dont on ne parle pas assez, justement dont les œuvres ont été un peu invisibilisées ou difficiles à lire. Alors par exemple on parlait de la princesse de Clèves, en effet le langage de Madame Lafayette est un peu compliqué aujourd'hui peut-être pour certains jeunes élèves qui ne comprennent pas bien la langue et qui n'arrivent pas bien à se représenter ce monde-là à l'époque. Et c'est vrai que le dessin aide par la représentation à mieux se figurer ce que ça veut dire, que justement une jeune fille, eh ben, c'est une jeune fille qui a des sentiments comme eux aujourd'hui, qui leur ressemble, elle a un costume différent, mais finalement les personnages sont intemporels. Et alors ce qu'apporte la bande dessinée par rapport au roman de base, évidemment ça doit normalement les inciter à lire le roman de base, ça ne doit pas remplacer.
D'accord.
Mais ça doit aider, ça c'est vraiment nécessaire pour les professeurs qui s'inspirent je pense de cela, c'est que nous avons essayé d'enlever par exemple les grandes descriptions de ce que, à quoi ressemble par exemple un paysage, un château, des costumes. Ça, eh bien, parfois un petit dessin vaut mieux qu'un long discours.
C'est vrai.
Et permet à l'élève, à l'enfant, au jeune de rentrer plus facilement dans l'histoire que s'il lit des pages et des pages de description qui le font en fait dériver de la chair, du cœur du livre, qui sont les sentiments, l'histoire, le romanesque. Et voilà, donc la bande dessinée se concentre plutôt là-dessus et enlève le reste. Et on garde bien sûr la langue le plus proche possible de l'autrice,
ouais,
voilà, dans les dialogues, mais... pour qu'on ait toute sa petite musique et qu'on ne perde pas la forme littéraire justement de base. Donc il y a un gros travail là-dessus toutes les deux scénaristiques pour garder l'essence de la langue.
Et qui d'ailleurs peut poser aussi des problèmes, enfin du moins des questionnements d'un point de vue de la forme, puisque dans La Princesse de Clèves, on n'a fait que des dialogues, et ça c'était un choix, donc on n'a pas fait des « pendant ce temps-là », etc.
Ouais.
Et ça nous a aussi posé des problèmes, comment faire pour que La Princesse de Clèves ne passe pas pour une folle quand elle parle toute seule dans sa chambre, parce que si Madame de Lafayette va le dire, elle parle dans sa chambre, elle pense ceci, ceci, cela, c'est possible. Donc nous, il a fallu qu'on trouve des solutions, comment faire pour faire passer tous ces sentiments, puisque dans ce livre, c'est un peu le problème. Et après, dans Indiana, par contre, George Sand, c'est plus du tout le même mouvement littéraire, et George Sand, dans le romantisme, elle va faire des digressions souvent très drôles, elle a beaucoup d'humour, et c'est dommage de pas les garder, et donc ça, on a choisi, là, de faire des voix-off par moment, ouais, du narrateur qui va être omniscient, et qui va raconter des choses, parce que, et ça a été une complication de faire les deux, de jouer là-dessus, et de l'adapter avec l'image, mais... ça nous paraissait vraiment trop triste de passer à côté de toute cette image d'humour qu'elle a et de vision très féminine sans doute aussi des hommes, de la société, et qui apporte vraiment quelque chose. Alors après, pourquoi des femmes? Bon, bah, il est évident que toutes les deux étant des femmes, c'est aussi peut-être, on parle toujours un peu de soi dans les livres qu'on fait, et peut-être c'est pour ça qu'on est attiré par l'espionnage féminin, les écrivaines, les héroïnes. Et comme disait Catel, en effet, il y en a assez peu. Et je me souviens d'une fois où on était en festival et elle avait tous ses livres et on avait les nôtres, on était côte à côte, et quelqu'un nous a dit « mais vous avez que des livres avec des femmes ». Et en fait, Catel avait répondu avec justesse « oui, mais regardez, toutes les autres tables, il n'y a que des livres avec des hommes, et ça ne vous a pas choqué ». Donc voilà,
c'est une bonne réponse.
il faut le faire, quoi.
Alors vous avez fait ce livre à quatre mains, comme on dit, et votre particularité, c'est que vous êtes dessinatrice et scénariste chacune. Comment construire une BD avec ça? Comment ça s'est passé? Je l'ai un peu dit dans l'intro, mais comment ça s'est passé?
Bah, on s'engueule.
C'est vrai? Non, mais déjà, ouais, vous engueulez.
Violemment.
Violemment.
Elle lève les yeux au ciel.
Elle souffle.
on a la chance d'être voisine déjà physiquement, donc
aide,
c'est pratique.
Ouais.
Et aussi amie, en fait.
Oui, au départ, c'est surtout ça. Au départ, c'est surtout ça. Ça s'entend pas
très
bien, mais...
vous avez décidé de travailler ensemble précisément parce que vous êtes amis et que j'imagine il y a des centres d'intérêt communs.
Oui, tout d'abord, c'est un coup de foudre amical. Ouais. Tout d'abord, on a plein de choses en commun, on est sur la même longueur d'onde, on aime rire ensemble, on a les mêmes références culturelles, on aime les mêmes choses. Et puis, coup de bol, on est voisines, physiquement, géographiquement, ce qui fait qu'on peut se voir tout le temps.
Enfin, on essaie.
Donc, s'engueuler régulièrement.
Et voilà, oui. Et puis, quand on ne peut pas se voir, on s'appelle pour s'engueuler. Donc, c'est pratique.
C'est pas mal.
Et on décide de plein de choses en amont. On parle beaucoup déjà de ce qu'on va choisir, comme je disais tout à l'heure, quel angle on va choisir, mais aussi quels personnages vont nous faire penser à notre héroïne pour choisir, par exemple, le physique d'une héroïne, hein, mais, ouais. qui n'est pas forcément beaucoup décrit. Dans Madame de Lafayette, par exemple, les précieux, ils décrivaient rien du tout. Ouais. Quoi. Ils disaient, elle est blonde. Bonne journée, elle a 16 ans, elle est blonde. Bon, voilà.
On va se raccrocher à ça.
Voilà. Et les autres, ils sont beaux. Ah oui, super. Donc, on discute beaucoup comme ça. Après, concrètement, on fait d'abord un premier découpage du livre, ouais. en restant très très proche du livre. Okay. Et toutes les deux, on va se voir pour faire un storyboard. Et là, on va vraiment travailler image par image. Alors, ce qui est bien, c'est comme on dessine toutes les deux, on va projeter des images différentes et on va réaliser un storyboard qu'on ne ferait probablement pas l'une sans l'autre parce qu'on va avoir des visions de l'image, de la mise en scène qui vont être différentes. Qui vont parfois se compléter, parfois se confronter. Donc, ça va être des discussions. Et de la même façon pour le texte, parfois, on va vraiment passer du temps sur une phrase parce que quand c'est un petit peu alambiqué, on ne comprend pas forcément la même chose ou on ne veut pas en tirer la même chose. Donc, on va avoir des réflexions sur lesquelles on va se dire, bon, bah, soit on arrive à un compromis, soit on va se dire, bah oui, finalement, tu m'as convaincu, on va plutôt de ton côté. Et c'est vraiment comme ça qu'on travaille. Tout le storyboard, tout l'album existe en storyboard et on le fait vraiment toutes les deux, physiquement ensemble, côte à côte. On dessine toutes les deux, on fait des petits bonshommes dans tous les sens. Elle me dit, non, là, je le verrais plutôt dans l'autre sens. Ah, c'est marrant, moi, je l'aurais vu plutôt... enfloppé, ouais. Tout ça. C'est vraiment comme ça qu'on travaille. Et après, chacune va faire sa partie.
Avec les couleurs.
Avec les couleurs, on a une coloriste pour ces albums.
Qui s'appelle Marianne Didier. La coloriste s'appelle Marianne Didier-Jean. Elle est formidable. Elle suit le travail de A à Z. Ouais. Et elle colorie chacune nos parties, c'est-à-dire le prologue et l'épilogue d'un côté en bichromie pour que ça se distingue bien du reste, d'accord. qui est en quadrichromie. Il faut vraiment qu'on fasse la distinction de dessin et de couleur parce que finalement, on a des univers assez proches et qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas finalement la différence entre nous deux. Mais c'est pas tellement le problème, il faut surtout que ce soit bien lisible et qu'on comprenne la différence de période et de sujet, puisque voilà, c'est l'histoire de l'écrivaine et puis c'est son adaptation littéraire sur son œuvre.
Oui, en effet, ça, ce sont des partis pris graphiques et puis même colorés. Quoi. Et Marianne est vraiment formidable aussi parce qu'elle dessine elle-même et elle comprend le dessin. Et ça, pour une coloriste, c'est vraiment un gros, gros plus. Enfin, moi, j'aime beaucoup travailler avec elle. Voilà, donc petit aparté. Coucou, Marianne.
Mais oui. Est-ce que l'une comme l'autre, vous avez une discipline? Je pose souvent la question aux écrivains, aux écrivaines, mais c'est sensiblement la même chose avec vous. Est-ce que vous avez, des habitudes, non pas d'écriture, si d'ailleurs d'écriture, de dessin, de travail qui contribuent à alimenter votre pratique finalement?
Alors des rituels peut-être, oui. Moi j'ai un rituel, c'est que, je ne sais pas si tu as le même Claire, hein, parce qu'on ne vit finalement pas ensemble encore.
Finalement, n'oublions pas.
Mais moi tous les matins,
j'ai épousé José-Louis.
Oui.
Moi j'aime bien aller le matin prendre un café pour sortir de chez moi, vu que j'ai mon atelier comme Claire chez moi. Et donc je suis obligée, avant de m'atteler à ma table à dessin, de sortir prendre l'air, de m'oxygéner, de lire le matin en allant au café tout près de chez moi, où qu'il soit d'ailleurs. Quand je voyage aussi, je fais la même chose. Voilà, c'est mon besoin de sortir. Après, j'ai un autre rituel, c'est de marcher. En milieu de journée, il faut que je marche pour arriver un petit peu à me faire bouger, parce qu'on est quand même fixé à nos tables. Hein. C'est assez difficile d'un point de vue ostéopathique.
Oui.
Et puis, moi, j'ai des petits carnets. Là, vous voyez, j'ai toujours un carnet sur moi, des Moleskine, ça c'est le 77.
Ah, oui.
Des petits carnets qui sont des carnets de notes, de vie. Tout le temps, je prends note.
Et de dessin,
là, par exemple, dans celui-ci, eh bien... Ça commence par la maison de Georges Sand à Nohant.
Ah ouais.
Voilà, on était ensemble, c'était en novembre 22, voilà, avec Claire. Et en fait, parce qu'il faut que je la dessine, cette maison, donc c'est difficile de se la représenter, même si on a des photos.
Ouais.
Si on n'a pas vu l'endroit, c'est difficile de s'y projeter. C'est beaucoup mieux d'y être, ça fait naître un tas d'idées, on arrive mieux et à se représenter et à ressentir l'ambiance.
Et donc ce dessin, par exemple, c'était au café?
Ça, c'était, c'était sur place. On a pris notre café là-bas, puis j'ai pris mon, j'ai fait le dessin. Génial. Voilà, mais c'est comme ça. Et puis je prends des notes aussi, mais j'ai besoin de mes petits carnets en permanence pour garder en mémoire ma vie quotidienne, en fait. C'est des prises de notes, c'est des prises de dessin.
C'est un vrai rituel, 77e.
Moi, j'ai pas vraiment de rituel. Okay. J'ai juste deux enfants scolarisés, ce qui constitue un rituel bien pour organiser une journée.
Ouais, ça me semble pas trop mal. D'ailleurs, Claire, je crois que votre mère, elle voulait que vous fassiez du dessin. Est-ce que ça a changé quelque chose, vous, dans la direction qu'a pris votre carrière ?
Mais comment savez-vous ça ?
Oh, bah écoutez...
Ma maman vous a appelé ?
Promis.
Oui, ma maman, ma mère aimait bien me dessiner elle-même. Elle n'a pas pu le faire, question d'époque et de possibilités. Je pense qu'elle a toujours trouvé ça drôlement pratique de voir qu'en me mettant un papier et un crayon dans les mains, ça me tenait tranquille. Donc, je pense que... Est-ce que ça a influé sur mes goûts ? Pas forcément, parce que ma sœur ne fait pas du dessin alors qu'elle a eu droit au même truc, hein, et tout le monde dans la famille. Mais je pense que ça a aidé parce que mes parents n'ont jamais, malgré la terreur que ça leur a probablement occasionné, n'ont jamais hésité à me soutenir et dans mes vœux de faire des études de dessin, puis du dessin, puis tout ça.
Cadel, c'est venu comment, toi, le dessin, disons?
Alors, on peut parler de passion, enfin, c'est-à-dire la dessinomanie. Moi, déjà, petite, en maternelle, ma maîtresse, qui s'appelait Anne-Lise, son mari avait un poney club et j'adorais les chevaux. Okay. Si j'avais pas fait du dessin, je me serais occupée de chevaux. Mais du coup, je passais mon temps à aller au poney club dessiner les chevaux. Et à l'école, on suspendait mes dessins signés de mon prénom. Donc, quand on voit la photo de classe, on voit 20 dessins signés de moi, pas déjà mégalo. Et par la suite, chez moi, on dessinait pas. Bien que j'avais un grand-père libraire qui aimait les livres et qui collectait mes dessins, qui me faisait dessiner dans sa librairie et chez lui. Mais j'avais des parents plutôt scientifiques, professeurs. Et ma sœur est médecin, mon frère est dans le commerce. Enfin, il n'était pas question de faire du dessin, c'était pas un métier. Quand j'ai eu 16 ans, que j'étais en cours de maths, donc dans une section plutôt scientifique, alors j'étais vraiment tout à fait la dernière de la classe en maths. J'étais au fond de la classe, je dessinais pour faire rire mes camarades parce que là j'avais encore un peu d'écho, et j'avais dessiné mon professeur de maths en cochon jusqu'au moment où il m'a mis une petite tape sur l'épaule. Il m'a dit: très bien, je vais convoquer vos parents, mademoiselle Muller. Donc je préviens mes parents que cet odieux personnage va dire du mal de moi.
Bien sûr.
Mes parents y vont, il leur tend le dessin, mes parents se confondent d'excuses et il leur dit: mais c'est très ressemblant, c'est formidable, il faut absolument qu'elle fasse du dessin. Moi, j'ai voulu faire du violon, j'ai pas pu, mais votre fille, vraiment, il faut qu'elle fasse du dessin, elle est faite pour ça. Et toute ma vie a changé parce que mes parents ont entendu ça et ils m'ont fait confiance, comme la maman de Claire. Voilà, j'ai fait le concours des arts décoratifs à Strasbourg, j'ai fait mes études en même temps que Blotch et puis je suis montée avec mon petit carton à dessin à Paris et j'ai pu faire ma vie comme ça de dessinatrice bohème, mais ça a plutôt bien marché tout de suite et j'ai eu de la chance.
Il semblerait.
Il faut reconnaître que ça peut aussi influer dans une certaine mesure sur les idées qu'on peut se faire sur la place de la femme, d'une part parce que moi ça a très vite été l'illustration et la bande dessinée qui m'intéressaient, mais j'avais très peu de modèles de dessinatrices de bande dessinée, je ne savais même pas que c'était possible d'en faire un métier.
Et je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ?
C'est peut-être pas tout à fait objectif, mais je vais parler de la dernière bande dessinée de mon scénariste José-Louis Boquet, qui est également mon mari, chez Dargo, qui s'appelle Les Passagers du Polaris, merveilleusement dessinée par Christian Caillot, qui est une adaptation de Georges Simenon. Il y a toute une collection Georges Simenon là qui va paraître. C'est absolument magnifique, je trouve. Okay. Et puis peut-être une exposition que je viens de voir au Musée du Havre, au MUMA, musée magnifique aussi, où il y a une exposition Albert Marquet, qui est un impressionniste fauviste qui m'a énormément touchée avec des couleurs merveilleuses et une expression folle dans ses toiles.
Alors, puisqu'on en est au copinage,
je
vais parler du dernier livre de Isa chez Fluide Glacial. Ça s'appelle « Comment je me suis radicalisée en féminazie ». C'est très drôle. Je suis en guest, j'apparais plein de fois. Écoute. Et c'est très très. Non, mais c'est vraiment très très drôle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis peut-être aussi vous conseiller de regarder sur Arte TV en ce moment, c'est disponible, c'est un film de 1966 tchécoslovaque, c'est la nouvelle vague tchécoslovaque, ça s'appelle Les Petites Marguerites, donc c'est un vieux truc mais c'est disponible en ce moment et okay. C'est psychédélique et c'est vraiment à voir. Voilà.
Génial, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et bien voilà, la quille c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée ou plusieurs finalement pour parler culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.